à voix nue. Entretien d'hier et d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, Bernard Pivot s'entretient avec Robert Mallet. Deuxième entretien.
Bernard Pivot, nous avons évoqué dans notre dernier entretien la tentation que vous aviez eue vers 12 ou 13 ans d'écrire un roman que vous inspirait les Têtières et les Béragnons. Mais vous dites dans Beaujolais, et c'est cela que je voudrais que vous expliquiez, par Bacchus, qu'il y eut d'admirables livres en suspension dans les bouteilles offertes à ma soif et à mes rêveuses cogitations. Comme si vous aviez réellement, à ce moment-là, envisagé d'écrire à partir de rêveries que vous provoquait le bon vin.
Mais le vin vous chauffe les... Vous chauffe les tempes, il vous chauffe le cœur, le vin se glisse dans vos veines et il produit certaines modifications très sensibles. Et fatalement, quand on se met à boire un petit peu, parce que j'ai jamais beaucoup bu, mais j'ai bu du bon vin, et regardez aussi le vin, regardez la bouteille, bah, tout ça vous chauffe l'esprit et vous avez envie de devenir une personne autre que ce que vous êtes. Vous avez envie à ce moment-là d'écrire, vous avez envie d'être le meilleur, vous avez envie de faire des études brillantes, combien de rêves j'ai tiré du vin, bien entendu.
Oui, et comme vous en avez bien parlé du vin, Bernard, puis voilà, vous permettez, là, je vais vous citer vous-même.
Ben oui, parce que
vous avez écrit sur le vin, vous allez trouver que c'est pas mal du tout.
Non, mais comme je suis un homme du vin, j'ai parlé du vin. Si j'avais été né dans la Beauce, j'aurais parlé peut-être du blé, mais encore que le blé m'aurait probablement moins inspiré.
Alors
que
vous
le
dites,
vin.
Vous faites du vin votre ami, vous dites, on examinera auparavant, de préférence, à la lumière du jour. Quel visage a notre ami ? Le rouge a de la trogne, le blanc de la malice, le rosé de la gentillesse et tous de belles joues. Il est plaisant de faire tourner lentement le verre entre ses doigts, d'en observer le contenu, tantôt par-dessus, tantôt par-dessous, ou encore horizontalement, à hauteur du regard. Qu'on n'y voit pas une imitation sacrilège des gestes du prêtre avec le calice, ni, ce qui serait pis, quelque exercice de chimiste à l'éprouvette, mais simplement la recherche par un honnête homme de la meilleure position pour boire avec ses yeux.
Ben oui, mais bien sûr, mais on boit avec ses yeux, on boit avec son nez et on boit avec son palais, on boit avec tous ses sens. Et on boit même, c'est vrai, avec le toucher. Avoir un verre dans la main ou avoir un tasse-vin dans la main, ça fait partie du plaisir des sens. Donc un vin, ça ne se boit pas simplement comme ça, on boit un coup, salut, au revoir. Non, un bon vin, ça se déguste avec ses cinq sens. Et ça vous fait rêver. Et
alors quel rêve provoquait en vous, justement, cette consommation
de des rêves d'être un jeune homme hardi quand j'étais
hardi et ardent.
D'être un jeune homme cultivé quand j'étais paresseux, d'être un homme généreux quand je manquais de générosité. D'une certaine manière, le vin a toujours a eu l'effet en moi d'essayer de me rendre meilleur. Voilà.
Oui, ça a été un tonique pour vous, un tonifiant.
Oui.
Ça a été un exaltant parfois, mais jamais quelque chose qui, au-delà de la consommation normale, peut rendre l'homme, au contraire, moins humain.
Non, pas du tout. Moi, je n'ai jamais versé dans un alcoolisme quotidien, alors qu'il m'aurait absolument annihilé. Ça, c'est évident. Je voudrais dire deux mots sur Antoine Blondin. Pour moi, c'est un de mes écrivains préférés. Et quand j'étais jeune homme, j'aurais voulu écrire comme Blondin, tellement j'admirais son talent. Donc, je pense que le vin, l'alcool, disons, a certainement exalté Blondin, l'a certainement fait rêver, mais évidemment, il est passé de l'autre côté et il a été ensuite victime du vin et de l'alcool. Et il est malheureux que le vin l'ait empêché d'écrire pendant les 20 dernières années de sa vie.
Oui, le vin devient une drogue à ce moment-là. Et je trouve que le mot drogue associé au mot vin est une affreuse chose pour le vin. Alors, Bernard Pivot, tandis que au temps des vendanges, vous vendangiez, au temps de la scolarité, vous étiez scolarisé. Alors revenons à cette pension, puisque vous étiez mis en pension à Lyon. Comment se passait ce temps de l'étude ? Étiez-vous un élève appliqué ? Un élève qui rêvait beaucoup, qui avait hâte de quitter l'école, ou vous y trouviez-vous dans un milieu accueillant, hospitalier ? Étiez-vous répulsif ou au contraire avez-vous une pulsion scolaire ?
Eh bien, j'ai été dans l'ensemble plutôt un élève médiocre, saurait beaucoup dire, mais enfin un élève moyen. En français, en grammaire, je n'étais pas un brillant élève, mais j'étais plutôt bon. Et dans toutes les autres disciplines, j'étais plutôt un mauvais élève, notamment en mathématiques, physique, chimie. Et malheureusement, mes parents m'avaient placé dans un pensionnat où il n'y avait qu'une option, c'était l'option mathématiques, physique, chimie, c'est-à-dire le bac moderne. Donc j'ai souffert 1000 morts pour obtenir ce sacré bac.
Et... Ah, vous l'avez obtenu tout de même, le bac scientifique
oui,
à l'époque.
Oui, oui. Je reviendrai là-dessus, non, c'est plus compliqué que ça. Alors, j'étais pensionnaire, je n'étais pas un bon élève, et pourtant j'ai été un pensionnaire heureux. Ça peut paraître bizarre. Et pourquoi ? À cause du sport, tout simplement. Parce que j'ai découvert les joies du sport, j'ai découvert les joies de la compétition, et le football, mais pas seulement le football, le basketball, le tennis de table, j'étais un très bon joueur de tennis de table, m'ont offert des joies que je me rappelle encore avec délectation. Et c'est vrai que souvent...
Et vos professeurs ne vous ont pas laissé de grandes impressions ?
Non, pas du tout. D'ailleurs, surtout, moi, je n'ai pas laissé de grande impression à mes professeurs. C'est ça qui compte. Non. Mais voilà, figurez-vous que j'aimais tellement jouer au football que le week-end, au lieu de descendre chez mes parents, parce que je dis descendre parce que l'école était au sommet de la colline de la Croix-Rousse, au lieu de descendre chez mes parents, je préférais rester au pensionnat pour pouvoir jouer au football le samedi et le dimanche avec mes copains. Oui. C'est vous dire combien oui. J'aimais le sport.
Oui, mais alors, ça m'amuse beaucoup parce que votre visage en ce moment se détache sur une cheminée. Et sur la cheminée, il y a, comme fût de la lampe, un joueur de football qui lance le ballon avec la majeure au-dessus de lui. Donc ça prouve que ça vous a suivi.
Alors, j'étais dans un pensionnat qui s'appelait le pensionnat Saint-Louis, qui avait une particularité, c'est effectivement de développer le goût du football. N'oubliez pas que c'était tout de suite après la guerre. Il n'y avait pas beaucoup de collèges en France où l'on enseignait le sport avec cette disponibilité de l'élève, cette disponibilité des professeurs. Mais nous avons raflé absolument toutes les médailles, tous les prix.
Alors vous faisiez partie d'une équipe de juniors, puis après de senior.
De minimes, de cadets, de juniors. Oui. Donc j'ai franchi... J'étais pas un bon joueur. C'est ça qui est extraordinaire. J'étais pas un très bon joueur de football. Mais j'étais un joueur appliqué. J'étais un joueur volontaire. J'étais même hargneux sur le terrain. Je voulais réussir dans le football parce que c'était ma passion.
Quelle était la place que vous aviez dans le...
Je jouais milieu de terrain. Je jouais interdroit.
C'est important.
Oui, mais tous les postes sont importants au football. Donc, vraiment, et le sport, et je lui en sais gré aujourd'hui, le sport m'a donné le goût de la compétition, m'a donné le goût de l'effort, m'a donné le goût du travail en commun. C'est ça que m'a donné le football en particulier et le sport en général. Je vais vous raconter une joie que m'a donné le football. Le jeudi, bon, on était pensionnaires, mais le jeudi, on s'échappait du pensionnat pour aller à l'extérieur, pour aller jouer contre d'autres équipes. Parfois même, nous prenions le tramway, parfois même, nous allions, même, il nous est arrivé d'aller en car à 10 ou 20 kilomètres de Lyon. Et quand nous revenions au pensionnat et que les portes se refermaient sur nous, eh bien, si nous avions gagné, nous étions les rois. Nous étions les rois. Et le lendemain, le professeur de mathématiques, s'il savait que j'avais marqué un but, et s'il voyait bien que je ne connaissais pas ma leçon, eh bien...
Il était plus indulgent.
Il était très indulgent. Oui. Parce que les professeurs eux-mêmes avaient le goût du sport.
Mais si vous aviez été premier en composition, en classe, vous auriez été tout de même aussi heureux que d'avoir gagné un match de
football. Je ne pouvais pas être premier alors que je pouvais parfois marquer un but. Oui. C'est ça qui est important.
Mais alors, dans la vie, il faut toujours aller dans le sens de ses dons. Alors, à ce moment-là, quels sont les dons que vous avez perçus en vous, en dehors du football? Alors, vous
n'avez aucun don. Non, je n'ai aucun don.
Ah, mais il y avait tout de même des...
Non, je vous ai dit, je sais que je n'ai aucun don. Je rêve de devenir un grand joueur de football.
Non, mais vous avez peut-être le don de savoir que vous n'en avez pas, ce qui permet, par là même, sans paradoxe, d'être plus lucide.
Non, à 15 ans, on ne se demande pas si on a des dons. C'est pas vrai, je ne me suis jamais posé cette question.
Non, on a des facilités. On le sent tout de même.
Oui, j'ai mes facilités.
Vous sentiez bien que vous aviez plus de facilité pour jouer au football avec un ballon sur les pieds que pour écrire la solution d'un problème.
Oui, bien sûr, mais on se pose pas à 15 ans ce genre de questions. On vit au jour le jour.
Alors, Bernard Pivot ne se la pose pas, mais elle se pose.
Oui.
Alors justement, je voudrais savoir dans votre vie comment, à un moment, vous êtes posé la question de votre avenir. Parce qu'il y a un moment où vous êtes posé la question, ou bien on l'a posé pour vous, ce qui est très grave.
Eh bien, je vais vous
comme vous avez beaucoup de personnalité, je ne pense pas que vous avez suivi la voie que vos parents vous imposaient.
Je me suis finalement jamais posé la question de mon avenir avant l'âge de 19 ans. C'est ça qui est extravagant.
C'est assez tard.
Non, c'est assez tard. En gros, je vais vous dire, c'est donc le bac a été pour moi l'horreur, puisque les mathématiques, la physique, la chimie, j'étais très mauvais, donc j'étais recalé au bac. Il faut dire que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que ce pensionnat a obtenu les meilleurs résultats en sport et les plus mauvais au bac. Nous étions 22 à nous présenter, je crois, dans ma promotion au baccalauréat. Deux seuls ont été admis. Alors vous me direz que c'était plus difficile il y a 40 ans qu'aujourd'hui. C'est vrai. Mais enfin, les résultats n'ont pas été brillants. J'ai donc redoublé ma première au lycée Ampère de Lyon, mais là en classe français. Et là, j'ai réussi le bac. Et après, j'ai passé la philo. Ce qui fait que je me suis présenté à l'âge de 19 ans. Je ne savais pas quoi faire. À un moment, j'ai voulu être vétérinaire parce que j'adorais les bêtes. C'était stupide. Je suis allé à l'école vétérinaire à Lyon. Il y a une grande école vétérinaire. Je me suis fait donner le programme. Il n'y avait que des sciences physiques, chimie, maths.
Oui, alors vous avez dit, je vais pas recommencer.
Je suis stupide. J'ai rencontré l'un de mes camarades de promotion du lycée Ampère sur le pont. Je lui ai dit, écoute, je suis allé chercher la documentation pour être vétérinaire. C'est stupide, c'est pas fait pour moi. Je te la donne. Il est devenu vétérinaire. Il n'avait absolument pas envie de devenir vétérinaire.
Gide disait, on influence que ce qui va dans votre sens. Vous alliez dans son sens sans qu'il le suive.
Eh bien, disons que...
Bon, alors, je voulais vous poser
cette question. Sur ce pont de la Saône, nous allions dans le même sens.
Oui, je voulais vous poser cette question. Donc, jusqu'à l'âge de 19 ans, si on vous avait posé la question, comme on la pose très souvent aux enfants, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Vous auriez répondu, je ne sais pas.
Je répondais, je ne sais pas.
Je ne sais pas.
Je ne sais pas.
Vous n'aviez aucune attirance pour quoi que ce soit?
Pour rien du tout.
Sauf pour le football.
Pour rien du tout. Oui, mais
vous n'avez pas eu envie de faire d'être un professionnel du sport.
Mais non, parce que j'étais pas assez bon. Mais non, mais non, il faut être très bon pour jouer au football pour devenir un professionnel. Mais j'étais un joueur moyen. Je vous dis appliqué, volontaire, pas doué.
Alors vous auriez dû à 19 ans avoir tout d'un coup une certaine angoisse quand même.
Non.
Bien, vous ne l'aviez pas.
Non, pas du tout.
Je suis un optimiste lambin. J'aimerais que vous expliquiez cela parce que ça...
Parce que j'avais confiance dans la vie.
Ça va dans le sens de ce que vous...
Parce que j'avais confiance dans la vie. Je me disais un jour, je trouverai ma voie. J'étais pas pressé. Je me laissais vivre d'une certaine manière. Et je me suis donc inscrit à la faculté de droit de Lyon en ne sachant absolument pas ce que je ferai plus tard.
Pourquoi pas aux lettres?
Je vais même vous faire une confidence. Je crois que je n'ai jamais dit à personne. Je me suis même inscrit à l'école, qui s'appelait l'école Lefebvre, par correspondance, pour devenir inspecteur des contributions. C'est incroyable.
Mais les contributions, c'est des chiffres.
Mais non, mais je faisais n'importe quoi. Mais vous voyez en moi quelqu'un qui était tout à fait maître de lui, conscient de ses possibilités. Non, je n'étais pas ainsi. J'étais un garçon rêveur qui vivait au jour le jour, qui trouvait du plaisir en allant au cinéma, en jouant au football, en sortant avec des copains et des copines, en flirtant avec des filles, parce que évidemment on flirtait à cette époque. Donc, mais j'étais un garçon comme ça.
Il n'y avait pas de prévision.
J'étais
dans
un garçon rêveur.
Il n'y avait pas de programmation.
Aucune. J'ai jamais eu de programmation dans ma vie. Jamais. Et je me suis retrouvé à 19 ans, comme ça, et je me suis inscrit à cette école.
Oui.
Folie totale. Il fallait vraiment méconnaître pour s'inscrire à une école comme ça, où on vous a... Bon, au bout de 15 jours, j'ai envoyé ma démission de cette école en disant « je comprends rien ».
Mais pourquoi avez-vous choisi le droit et pas les lettres?
Mais j'en sais rien.
Puisque les lettres étaient tout de même plus proches de vous que le droit.
Non, elles n'étaient pas plus proches que moi. Non, elles n'étaient pas plus proches de moi. C'est pas vrai. Elles étaient...
Alors vous auriez pu devenir viticulteur vigneron, ça?
Non. Non, non, plus. Non, non,
vous,
non.
Vous auriez pu être un très bon vigneron.
Non, parce qu'un viticulteur, il ne rêve pas. Et moi, j'aimais rêver.
Vous croyez qu'il ne rêve pas?
Non.
Il rêve d'une autre façon.
Il rêve peut-être d'une autre façon. Mais moi, j'aimais rêver. Et peut-être aimais-je trop les plaisirs de la vie. Et un vigneron, la vie, surtout à cette époque, était dure. Et peut-être n'étais-je pas assez courageux pour préciser.
Oui, alors vos parents, qu'est-ce qu'ils pensaient de tout ça?
Ben mes parents...
Ils vous regardaient, ne rien faire. Oui. Ne pas décider.
Non, et...
Ils ne vous poussaient pas dans un sens ou dans un autre.
En même temps,
Est-ce qu'ils avaient repris l'épicerie, les parents?
Ah ben donc, bien sûr, depuis longtemps.
Alors vous n'aviez jamais pensé à être épicier?
Mais comment épicier? Non, parce que là, je détestais. Parce que il faut vous dire que tous les dimanches, je servais à l'épicerie de mes parents. Le jeudi aussi, quand j'avais 17-18 ans, je faisais les livraisons. J'avais mon triporteur, et dans ce triporteur, il y avait des pommes de terre, il y avait du vin, il y avait de l'eau minérale.
Triporteur bicyclette, enfin.
Oui, bien sûr.
Oui, alors c'est un petit peu de sport, ça devait vous consoler. Oui.
Et je montais... aux parents de mes camarades, je leur montais des sacs de pommes de terre et des litrons de vin et d'eau minérale.
Oui, mais vous n'aviez pas pensé que vous auriez pu être l'épicier qui fait travailler un commis?
Non, parce que je n'aimais pas. Je n'aimais pas, c'était l'hiver, plonger ses mains dans les épinards glacés, dans des pommes de terre glacées.
Alors, on voit se dessiner chez vous tout de même plutôt une attirance vers l'intellectuel plutôt que le manuel.
Oui,
hein,
oui.
C'est ça.
J'écrivais comme tous les garçons de mon âge, j'écrivais des poèmes.
Vous écriviez des poèmes.
Non, l'essentiel, je vais vous le dire. Non, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, ça a été ces blessures un peu d'amour-propre que j'ai ressenties lorsque j'étais le garçon livreur de mon père que je montais les étages, je montais ces 10, 20 kilos de pommes de terre, je montais ces...
Vous avez été humilié ?
Non, oui, parce que j'arrivais et je trouvais mes copains qui jouaient et moi je bossais et il y avait la mère du copain qui disait « Ah, mais vous êtes le fils du patron, donc je vous donne pas de pourboire ». Et ça, j'ai parfois été un peu humilié par ça.
Vous auriez encore été plus humilié si on vous avait donné un pourboire ?
Non, pas du tout.
Non, vous pas vous du trompez. Tout, parce que vous avez eu l'impression que c'était plus juste.
Non, vous vous trompez,
oui,
non.
Peut-être, vous avez raison.
Vous vous trompez, non, parce que du tout, toute peine mérite récompense.
Oui, salaire. Oui. Non, mais je comprends très bien ça.
Non, pas du tout. Là. Je faisais les vendanges. Le premier argent que j'ai gagné dans ma vie, c'est en faisant les vendanges. Et donc, je trouvais normal, bien que fils de la dame faisant le travail,
vous auriez dû avoir...
Non, pas du tout.
Et c'est même là que vous êtes dit, je préfère être du côté de ceux qui travaillent de l'esprit que de leur...
Non, non, je me suis pas dit ça parce que quand on a 17-18 ans, on ne se dit pas ces choses-là. En tout cas, pas moi. Non, simplement, moi, je me disais, au fond, je préférais rêver. Je continuais de rêver.
Et oui, puis, il y a un moment où le rêve doit cesser.
Ben oui.
Parce qu'on se réveille.
Et oui, je pense que mes parents...
Alors, vous êtes réveillé comment?
Ben, mes parents, d'abord, étaient très gentils avec moi. Ils me laissaient...
Ils n'étaient pas inquiets.
Non, et je leur disais que je voulais écrire en même temps. J'écrivais un peu.
Et votre frère, qu'est-ce qu'il faisait, votre frère cadet?
Mon frère, il commençait déjà des études d'agriculture.
Vous étiez à côté de lui, vraiment quelqu'un d'autre, qui n'avait pas du tout la même réaction.
Totalement, non, mais j'étais un peu...
Vous n'aviez pas le sens de votre destinée?
Pas du tout, j'ai jamais eu le sens.
C'est important, Bernard Pivot, parce que vous avez eu une réussite assez exemplaire.
Oui.
Et ceux qui vous écoutent, les jeunes... Il ne faut pas qu'ils se disent, il suffit de ne pas penser, de rêver, puis un jour ça viendra tout seul. Je crois qu'au contraire, vous représentez, à mes yeux tout au moins, un homme qui a été très volontaire pendant toute une partie de sa vie, qui a eu une méthode et qui a fait triompher cela.
Oui, mais c'est après ça.
C'est après,
mais à chacun son destin. Bon, mon destin, jusqu'à l'âge de 20 ans, ça a été d'être incertain de son destin. Et d'ailleurs... ne s'en souciant pas tellement.
Alors
jusqu'au jour où t'arrivais un parent, et je ne savais pas... Alors mes parents, quand même, commençaient à s'inquiéter. Le droit me... J'ai envoyé les...
Alors vous viviez comment? Avec l'argent de vos parents?
Ah bah oui, non, mais je vivais chez mes parents.
Oui, alors vous n'aviez pas l'argent de poche?
Mais si, j'avais de l'argent de poche. Mes parents gagnaient... Vous savez, l'épicerie marchait très bien, donc j'avais de l'argent.
Alors donc est arrivé quelqu'un?
Un peu d'argent. J'ai jamais été un enfant de riche, mais j'ai été un enfant à qui mes parents donnaient
Oui, alors si peut-être vous n'aviez pas eu de quoi vivre, vous auriez trouvé une situation forcément. Enfin, vous auriez cherché un emploi. Je crois que parfois, les parents, lorsqu'ils continuent à entretenir leurs enfants... tout en profitant, puisque vous faisiez les commissions, vous portiez les colis chez les clients de vos parents.
Mais en même temps, je voulais que ça s'arrête.
Il favorise chez l'enfant une certaine inertie.
Non, je crois pas. Mais non, au contraire, mes parents ont été formidables. S'ils m'avaient engueulé...
Vous pouvez être reconnaissant, parce qu'en effet, ils ont été très compréhensifs.
Ben oui, ils ont été compréhensifs jusqu'à l'âge de 7. Mais peut-être avaient-ils confiance en moi. Peut-être ont-ils senti qu'un jour, je trouverais ma voie, mais qu'il fallait pas me brusquer.
Mais vous n'étiez pas du tout malheureux de cet état d'incertitude?
Non, en tout cas pas, je m'en souviens. Je ne crois pas.
Alors, excusez-moi, je vous ai interrompu. Quelqu'un est arrivé. Cette personne, vous dites?
Mes parents commençaient à s'inquiéter. C'est vrai que j'ai abandonné ces études de droit qui ne me plaisaient pas. Donc rien ne me plaisait. Et je me disais, effectivement, j'avais donc 19 ans, qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Et mes parents se disaient, mais qu'est-ce qu'on va faire de Bernard? Il rêve, il aime le football, mais qu'en faire? Et est arrivé un jour, un de mes parents, qui a dit, mais... Bernard, au lieu de lire les journaux, il ferait mieux de les écrire. Et c'est vrai que j'ai toujours été un lecteur de journaux. Je lisais l'Équipe depuis l'âge dès que l'Équipe est parue après la guerre, j'ai été un lecteur de l'Équipe, mais je lisais le Progrès de Lyon, je lisais des journaux, j'étais un lecteur de
journaux. Et de livres, vous n'étiez pas lecteur de livres?
Je lisais quelques livres, mais je n'étais pas un fort lecteur.
Vous n'étiez pas dans un milieu où on lisait tellement?
Non, mes parents ne lisaient pas, donc je n'étais pas un milieu
de lecteur. Vous lisiez donc la presse?
Donc je lisais la presse, effectivement, et je me suis dit, ça paraît idiot. Et j'ai dit, mais effectivement, c'est une bonne idée. Je suis allé à l'université, au bus, ça s'appelait...
Le bus,
et j'ai demandé comment devenir journaliste. On m'a dit qu'il y a deux écoles, il y en a une à Paris, le centre de formation des journalistes, qui est l'école d'ailleurs de la profession, et une autre à Lille, qui relève de la faculté catholique de Lille. Et j'ai dit, je vais me présenter à celle de Paris.
C'était sur dossier qu'on était admis, ou par concours?
Non, c'est concours. Pour la première fois, je suis allé à Paris, donc je me suis inscrit, j'ai passé...
Vous ne connaissiez pas Paris?
J'étais passé quand même 48 heures à Paris, j'avais 15 ans, en allant disputer à Chartres les championnats de France de tennis de table. Le pensionnat Saint-Louis avait été arrivé en finale. Et comme je l'ai dit, j'étais un médiocre joueur de football, mais j'étais un bon joueur de tennis de table. Et donc, je connaissais Paris à travers ce voyage sportif. Donc, je suis arrivé à Paris. Je me suis inscrit au centre de formation des journalistes. C'était au mois de juin. Et je suis revenu au mois de septembre. Et j'ai donc présenté le concours. Et alors, il s'est passé quelque chose d'extravagant dans ma vie. C'est que moi, qui étais jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, un mauvais élève, disons un élève pas très bon, je suis devenu un très bon élève. J'ai réussi le concours facilement.
En quoi consistait-il le concours?
Il y avait une épreuve de français, il y avait une épreuve d'anglais, il y avait surtout des connaissances.
Vous étiez bon en langue?
Non, pas très bon. Même mauvais. Non, je vous dis, je suis mauvais. Je vous dis, j'étais mauvais. Sauf en grammaire et en français, où j'étais plutôt bon sans être un crack. Le reste, j'étais médiocre. Mais il y avait des concours surtout de culture générale, des connaissances sur l'actualité. Enfin bon.
L'actualité sportive, vous devez la connaître, mais les autres actualités, vous les connaissiez ?
Si, je me suis toujours intéressé à la vie politique, à la vie, peut-être pas économique, mais à la vie sociale, au sport, les faits divers. J'étais un lecteur de faits divers, j'aimais beaucoup les faits divers. Donc, et là, j'ai réussi. Et pendant 2 ans, j'ai fait le centre de formation des journalistes. Et là, le mauvais élève que j'étais s'est transformé en bon élève, appliqué, et d'une certaine manière, avec un certain talent. Et j'ai même terminé le concours de sortie, j'ai terminé second. De la promotion.
Non, mais étiez-vous pris dans une organisation avec une discipline ou étiez-vous libre de vos mouvements dans une chambre d'étudiants ?
J'étais totalement libre de mes...
Donc là, vous êtes astreint, alors à une méthode quand même.
Non, alors, Paris a eu un effet incroyable sur moi. Mon arrivée à Paris est quand même une chose extraordinaire. J'arrive à la gare de Lyon et je me dis, mais est-ce que t'as pas fait une bêtise ? Paris me paraît, bien que Lyon est quand même une grande ville et pourtant...
Personne ne vous accueillait à Paris ?
Non, personne. Je connaissais personne. Donc j'arrive et je fais 200 mètres dans la gare de Lyon et je me dis, faut pas trop que j'aille loin. La gare, faut pas que je la perde de vue. Et je suis entré au City Hotel qui était sur la gauche dans la rue de Lyon et j'ai pris une chambre au City Hotel. Un hôtel tout à fait d'une très grande modestie, très modeste, où j'avais une chambre très modeste au dernier étage. Et c'est là que je me suis installé en me disant, si ça va pas, la gare de Lyon est juste au bout
et
je repars.
Vous êtes resté longtemps dans cet hôtel ?
Et je suis resté toute l'année.
C'est incroyable. Parce que vous obéissez à des pulsions qui ensuite deviennent
des habitudes.
Des habitudes. Ouais. Alors, vous alliez tous les jours travailler à cette école ?
Oui, qui est rue du Louvre. Qui est toujours rue du Loup.
Et les promotions étaient de combien par an ?
Les promotions, on entrait 40 ou 45 en première année et seuls 20 élèves obtenaient leur diplôme de sortie au bout de 2 années d'études.
Oui. Alors vous êtes sorti avec le diplôme ?
Et là, c'est devenu facile. C'est-à-dire tout ce qui était difficile pour moi à Lyon est devenu facile à Paris.
Et Paris était le révélateur. Peut-être fallait-il que vous quittiez le milieu...
Probablement. Le milieu familial. Puis d'un coup, j'ai été livré à moi-même. Je me suis assumé totalement.
Est-ce que le mot responsabilité existait pour vous ?
Si, parce qu'attention, là, je me suis dit, attention Bernard, c'est la chance de ta vie.
Tu réponds de toi maintenant.
Ah oui. Si tu rates le centre de formation des journalistes, alors je ne sais pas ce que tu deviendras. Et ça, je me souviens très bien que je me le suis dit. Ça, j'en suis sûr.
Donc là, il y a eu une conscience réelle d'un destin que l'on façonne soi-même.
Cette légèreté, cette insouciance qui étaient les miennes du temps que j'étais à Lyon ont disparu lorsque je suis arrivé à Paris. Et tout d'un coup, je me suis dit, il faut être sérieux. Il faut maintenant ne plus rêver. Il faut travailler. Il faut continuer à aimer la vie. Mais il faut maintenant que tu travailles vraiment. Alors, c'est vrai que je recevais un peu d'argent de mes parents, qui continuaient évidemment de...
Vous aviez 21 ans.
J'avais donc 20 ans. C'est à ce moment-là que je suis devenu l'homme sérieux que je n'ai pas cessé.
Oui, alors il y a un mot qu'il faut employer, on ne peut pas l'éviter. Il a vocation.
Mais je n'ai pas eu de vocation.
Ah, vous l'avez eue tardive ?
Non.
Vous avez senti que vous étiez fait pour écrire ?
Non, c'est pas vrai. Une vocation, c'est une vocation, elle vous habite, elle vous démange, elle vous gonfle l'esprit.
Il y a des vocations qui ne sont pas dévoreuses comme ça, passionnées. Il y a la vocation vers Dieu, il y a la vocation...
Oui, ma vocation était toute petite.
D'être épicier. Bon, ben, vous étiez...
Mais écoutez, c'est même pas moi qui ai eu l'idée de devenir journaliste. On peut pas parler de vocation de ma part.
Vous avez été appelé par une certaine profession.
Non, je pensais que vous alliez même faire appel à la transcendance.
Vous n'avez jamais été tenté d'être prêtre ?
Non, pas du tout.
Non, vous auriez pu, parce qu'il y a un moment de mysticisme d'enfant. Oui. Peut-être quand on est enfant de cœur, on se dit pourquoi un jour on ne sera pas celui qui célébrerait la messe. Non, vous avez conservé tout de même une appartenance chrétienne.
Ah oui, j'ai, jusqu'à l'âge de 21 ans, 22 ans, j'étais un garçon qui a été élevé dans la foi chrétienne et qui, là aussi, l'assumait. C'est tout à
alors
fait
peut-être
évident.
Que
mais
c'est...
Non, mais il y a une chose dont on n'a pas parlé et qui, pour moi, est tout à fait révélateur de ce que je suis, c'est que même quand j'étais enfant de cœur, même quand j'étais un élève puni parce que pas assez travailleur, même lorsque j'étais, je jouais au football, sachant pertinemment que j'étais pas un bon joueur, j'ai toujours su garder une certaine ironie, une certaine distance vis-à-vis de moi. C'est-à-dire, j'ai toujours été un peu malicieux, un petit peu rigolard, comme vous voudrez, un peu désinvolte, un peu ironique, voilà.
Vous dites cette distance que vous preniez avec vous-même. Vous étiez un peu le spectateur de vous-même.
Un peu, oui, c'est ça. J'étais tout en n'ayant pas, en ne me posant pas les questions fondamentales qu'on se pose quand on a 16, 17, 18 ans.
Vous avez entretenu vis-à-vis de vous, dites-vous, un regard ironique. C'était pas un regard un peu complaisant?
J'ai certainement dû être un peu complaisant parfois à l'égard de moi-même.
Je ne suis pas complaisant, moi, non, en vous le disant, parce que j'ai l'impression que vous étiez assez naïf au sens natif, assez peu tortueux même avec vous-même.
Non, mais qui n'est pas complaisant parfois avec soi-même? Personne ne peut dire cela. Ce qu'il faut bien voir, c'est que j'ai été à la fois un adolescent exalté, exalté parce que j'avais la foi religieuse, exalté parce que j'adorais le sport, exalté parce que...
Vous aimiez la vie.
Parce que j'aimais la vie, qui avait les débuts de la sexualité. Donc j'ai souvent été un garçon exalté. Et en même temps, j'avais en moi cette distance, cette ironie, cet humour.
Vous avez toujours conservé.
J'ai su conserver. Je pense que les gens qui étaient autour de moi avaient probablement du mal à me comprendre. Je n'étais pas du tout un garçon révolté. Pas du tout. J'ai parfois été blessé. Mais quel est le jeune homme ou la jeune fille qui n'a pas été blessé dans sa jeunesse?
Mais vous ne l'avez pas été par ceux qui vous ont élevé, vous l'avez été par certaines circonstances.
Ben voilà.
Alors, quand vous étiez étudiant à l'école de journalisme, vous n'avez pas été perturbé par des sentiments affectifs? La découverte de la femme n'a pas perturbé votre formation professionnelle?
La découverte des femmes, je l'ai faite avant. Je vous dis, c'était du temps des vendanges.
Ah, c'est bon, temps des vendanges.
Là, il y avait longtemps.
C'est pour ça que vous avez tant parlé de la sensualité des vendanges. Oui.
Non. Mais à Paris, non. À Paris, j'ai 21 ans. Je suis devenu un grand garçon, là.
Non, mais c'est intéressant, encore, parce que ça prouve aussi que la vie, oh là là, comme vous avez dit un jour, l'amour, quoi? Hein, bon, ça, c'est votre côté un peu caustique, un peu facétieux et un peu doutant des choses. Oh, la vie, oh là là, il faut pas en faire une affaire. Hein. Et l'amour, oh là là, non, c'est pas
ça. Ça, c'est après, ça. Non, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que mes 2 années à Paris...
Vous avez été très sage, très studieux.
Je suis tout autre.
Non, mais
je suis un garçon complètement différent. Et je pense que les Lyonnais qui étaient à la fois mes parents, mes amis, ne m'auraient pas reconnu à Paris. J'étais devenu quelqu'un d'autre. J'étais devenu quelqu'un qui travaillait.
Qui bossait.
Qui bossait, mais qui en même temps était devenu ambitieux. Qui disait, il faut que je réussisse le concours de sortie. Alors que...
La première fois, vous employez ce mot ambitieux.
Alors, quelle est mon ambition à ce moment-là? Mon ambition, c'est de devenir journaliste et devenir un bon journaliste. Du moment où j'ai embrassé cette carrière, je ne veux pas être un médiocre. Et ce qui me paraît étonnant aujourd'hui, c'est que pratiquement dès que j'ai mis les pieds au centre de formation des journalistes, j'ai aimé ce métier. Et je me suis dit, ce métier est fait pour toi. Il est vraiment fait pour toi. Tu aimes lire les journaux, tu aimes les écrire... J'aime faire les travaux que me donnent mes professeurs au centre de formation des journalistes. Je deviens un passionné de journalistes. Je deviens passionné des journaux. Je suis un autre homme.
Alors là, vous avez eu la vocation.
Oui, à ce moment-là, j'ai la vocation. Oui. Mais j'ai la vocation sur le terrain. D'un seul coup, j'aime même des travaux. Je me rappelle certains travaux qu'on me donne à l'école, par exemple, décrivez l'église de la Madeleine. Alors, on pourrait penser que ce sont des travaux un peu embêtants. Pas du tout. Je prends goût à ça. Je lis. Mais la lecture des journaux que j'ai toujours pratiquée devient pour moi une drogue. Et elle est restée une drogue. Aujourd'hui, je ne peux pas commencer ma journée sans lire les journaux. Palper les journaux, pour moi, appartient à ma sensualité personnelle. Oui. Et donc, je change. Je ne suis plus le même. Je deviens quelqu'un qui s'organise, même s'il a gardé encore un peu le désordre de sa jeunesse. Je deviens plus convivial. Je change. Je suis un autre homme.
À voix nue, entretien d'hier et d'aujourd'hui. Bernard Pivot s'entretenait avec Robert Mallet. Réalisation Marie-André Arminot. Demain, 3e entretien.